Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Au programme du Labomatique cette semaine, on zoome sur les travaux de Gwenaël Rabu et son équipe de recherche au sein de l'Institut de génétique et développement de Rennes à l'Université Rennes 1. Biologiste, Gwenaël Rabu a dirigé une recherche à dimension internationale visant à mettre en évidence un nouveau mécanisme moléculaire qui permettrait aux cellules de détruire les protéines localisées par erreur dans leur noyau. Ses travaux ont été publiés dans la revue anglo-saxonne Nature. Avec lui, nous reprécisons les termes de son objet d'étude, les différents mécanismes cellulaires qu'ils impliquent et présentons une méthodologie directement venue d'un laboratoire allemand avec lequel il a pu collaborer.
On va peut-être tout d'abord commencer par resituer un peu vos travaux en partant de la thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2004, afin qu'on ait un contexte un peu général de ces recherches.
Donc la thèse que j'ai soutenue en 2004 s'intéressait aux mécanismes de trafic des protéines entre la cellule et le noyau. J'ai ensuite fait des travaux différents sur la dégradation des protéines. Et il se trouve que le hasard de mes recherches sur la dégradation des protéines m'ont conduit à trouver des mécanismes de dégradation de protéines qui ont lieu dans le noyau et qui, en fait, on va essayer d'en revenir, je pense, dans la suite de l'interview, mais ces mécanismes de dégradation permettent de dégrader des protéines qui sont mal localisées dans le noyau, c'est-à-dire qui ont été... C'est-à-dire que dans la cellule, il y a plein de protéines qui doivent être localisées à différents endroits de la cellule, dont le noyau, qui est l'endroit où il y a où est stockée l'information génétique. Les mécanismes de dégradation que j'ai découverts permettent, en collaboration avec d'autres équipes, bien sûr, c'est pas uniquement mon travail personnel, ont permis de mettre en place des mécanismes de dégradation. Des protéines sont mal localisées dans le noyau, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû être localisées dans le noyau, donc ont eu des erreurs de trafic entre le reste de la cellule et le noyau.
D'accord. Bah de toute façon, ça va être un peu l'objet de notre interview, donc on va revenir un peu plus précisément là-dessus. Donc avant qu'on entre un peu plus dans le détail de ces recherches, c'est une recherche qui a été menée dans un contexte international, il me semble, donc avec des équipes de recherche canadiennes et suédoises. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer déjà un peu cette collaboration ?
Oui, alors effectivement, donc nous au départ on faisait nos travaux ici à Rennes pour étudier les mécanismes de dégradation, comme je l'ai expliqué. Et on a trouvé que certains des facteurs qui sont impliqués dans la dégradation des protéines étaient localisés dans le noyau. C'est ce qu'on a observé, c'est des observations de base qu'on a fait. Et on a trouvé que ces facteurs-là étaient étudiés en détail par une équipe suédoise. Et donc, pour appuyer, pour continuer un petit peu nos recherches, on est entré en contact avec cette équipe suédoise pour voir si on pouvait ensemble arriver à avoir des résultats qui étaient plus importants que juste nous, de notre côté, ici à Rennes. Et cette équipe suédoise, comme elle avait cette expertise sur ces facteurs, a été de son côté contacté par une autre équipe qui n'était pas canadienne mais allemande en fait. Et en fait voilà, c'est grâce à cette équipe suédoise qui avait cette expertise sur ces facteurs nucléaires du noyau de cellules que les trois équipes se sont retrouvées en parallèle. Ensuite, il y a une équipe canadienne aussi qui est intervenue, mais ça, c'est en collaboration au départ avec l'équipe allemande, et nous, on n'a pas tellement été en contact avec eux.
D'accord. Alors, pour commencer l'entretien, moi, j'aurais voulu qu'on précise quelques notions, peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas forcément experts. Donc, on parle de localisation par erreur des cellules dans le noyau. Qu'est-ce qu'on entend ?
Des protéines.
Des protéines, excusez-moi. Ouais. Des protéines. Moi, c'est le terme « erreur » qui me pose question. Comment on pourrait un peu décrire ces mécanismes pour que tout le monde soit bien au point avec cette notion.
Ouais, alors d'abord, effectivement, le fait d'erreur, nous, on voit le produit de la biologie, les êtres vivants, les plantes, les animaux, l'être humain, qui nous semblent parfaits, enfin, qui sont parfaits. Et en fait, les mécanismes moléculaires qui sont à la base, qui permettent à la biologie de faire tous ces organismes, ben, sont pas des mécanismes qui sont forcément parfaits. Mmh. C'est des mécanismes qui peuvent avoir des erreurs, comme quand nous, on écrit, et ben, des fois, on fait une faute d'orthographe, et il faut la corriger. Et ben, de la même façon, quand la cellule, c'est des unités vivantes individuelles qui sont à la base de la constitution de tous les organismes vivants, qui sont multicellulaires, qui sont composés de plusieurs cellules, donc notre corps est composé de milliards et de milliards de cellules, ben, les cellules, elles font des erreurs, elles se trompent de temps en temps, et il faut qu'elles les corrigent. Voilà, et donc ces cellules, elles sont composées de différents constituants, dont les protéines, qui sont un petit peu les acteurs à l'intérieur des... Donc si on comparait une cellule, par exemple, à une ville, ben, les protéines, ce seraient un petit peu les individus de la ville qui vont agir dans la cellule, dans la ville, pour avoir différentes actions. Et donc les cellules fabriquent des protéines. Alors, la comparaison avec la ville a peut-être ses limites. La cellule fabrique des protéines et des fois, elle fait des erreurs en fabriquant ces protéines. Ces protéines ont des morceaux qui manquent ou ne sont pas complètement bien repliés parce que des protéines se replient dans l'espace. Et donc, il faut que la cellule corrige ses erreurs ou élimine les protéines qui sont défectueuses pour pas que ça entraîne des défauts ensuite par la suite.
C'est donc à la dimension un peu incertaine des mécanismes moléculaires que vous intéressez, en quelque sorte.
Au bout du compte, oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Oui. C'était pas forcément ma façon de penser à ça, mais oui, pourquoi pas. Oui.
D'accord. Alors, dans les mécanismes moléculaires que vous étudiez, donc il y a un rôle des protéines qui est fondamental. Le rôle joué par les protéines est fondamental, comme vous venez un peu de le préciser. On pourrait peut-être faire référence à des pathologies qui sont bien connues aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, on pense par exemple aux maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer, ou encore le cancer. Est-ce que vous pourriez peut-être illustrer votre propos en référence à ces pathologies?
Oui, alors dans les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer, ce qui se passe, c'est qu'il y a des défauts d'agrégation des protéines. Les protéines s'agrègent et forment des plaques qui vont entraîner les pathologies. Et donc, normalement, il y a des mécanismes dans le corps, dans les cellules, qui permettent d'éliminer ces agrégations, ces agrégats de protéines.
Voilà. D'accord, donc les cellules mettent elles-mêmes en place des mécanismes pour...
Exactement. Ouais. Les cellules ont mis en place des mécanismes. Au cours de l'évolution, des mécanismes moléculaires ont été mis en place pour permettre aux cellules de corriger ces erreurs, ces agrégations qui peuvent être à l'origine
d'accord.
de ces pathologies.
De quels ordres sont-ils ces mécanismes? Comment on peut les caractériser ou les décrire peut-être?
Donc c'est tout le travail sur lequel nous on travaille dans le laboratoire. Donc en fait, les mécanismes moléculaires qui sont en jeu... ils mettent en jeu trois étapes en quelque sorte. Il faut qu'il y ait une détection des erreurs, ensuite que ces erreurs soient marquées en quelque sorte, et ensuite une fois qu'elles ont été marquées, elles vont être corrigées. Donc les protéines, souvent elles sont dégradées. Et donc nous, on travaille sur l'étape de marquage qu'on appelle ubiquitination. Et donc en fait, la cellule, ce qu'elle fait en quelque sorte, c'est que quand elle détecte une protéine qui a une erreur, elle va lui mettre une marque qu'elle va reconnaître pour pouvoir ensuite la dégrader. Voilà. Et donc ces mécanismes moléculaires, on appelle l'ubiquitination.
Alors, c'est des mécanismes, donc c'est précisé dans votre papier, qui sont d'ordinaire localisés dans le cytoplasme. Et là, vous découvrez que c'est aussi localisé par erreur dans le noyau.
Alors exactement, donc ces mécanismes sont en grande partie, pas uniquement, mais la plupart des mécanismes que vous connaissez sont localisés dans le cytoplasme. Et la raison pour laquelle ils sont localisés dans le cytoplasme, c'est que c'est là qu'a lieu la synthèse des protéines. Et c'est une grande partie des erreurs qui sont faites au cours de la synthèse des protéines, c'est-à-dire que la cellule, les protéines sont composées d'acides aminés, et même si la synthèse d'incorporation des acides aminés dans les protéines est correcte à 99,999% des cas, il y a quelques cas où il y a un mauvais acide aminé qui peut être incorporé, et donc ça, la cellule le corrige. Et l'autre, une fois que la protéine a été synthétisée, il faut que la protéine se replie correctement, et souvent ça, c'est des mécanismes qui peuvent y avoir des erreurs, donc la protéine n'arrive pas à se replier. Et donc tous ces problèmes de correction des erreurs qui sont liés à la synthèse des protéines, ce qu'on appelle nous la traduction dans notre jargon, sont dans le cytoplasme. Donc
d'accord.
C'est pour ça qu'ils sont traditionnellement localisés dans le cytoplasme.
Très bien. Et donc l'apport de cette recherche là dont on parle aujourd'hui, donc c'est de découvrir que ça se passe aussi dans le noyau.
Et donc voilà, nous on a vu des mécanismes de correction des erreurs qui sont dans le noyau. Et en fait, un petit peu l'originalité par rapport aux mécanismes habituels qu'on connaissait, c'est que c'est pas forcément une erreur dans le sens où il y a une erreur dans la synthèse de la protéine ou dans le repliement de la protéine, comme je viens d'en parler lors de la synthèse qui est dans le cytoplasme, mais que les erreurs qui sont corrigées, c'est le fait que la protéine est mal localisée. C'est-à-dire que c'est une protéine qui peut être destinée à agir à un certain endroit de la cellule, et par erreur, elle va se retrouver dans le noyau, et pour corriger cette erreur, pour corriger cette mauvaise localisation, la cellule va dégrader la protéine en question pour plus qu'elle soit dans le noyau.
D'accord, donc ça c'est vraiment l'apport majeur de la recherche que vous venez d'effectuer. Quoi.
Exactement, oui.
C'est aussi donc une méthode que vous empruntez à une université allemande, l'université d'Heidelberg.
D'Heidelberg, oui.
Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire cette méthode et en savoir un peu en quoi elle consiste finalement.
Voilà, donc ça c'est pas nos travaux personnels à nous, hein, c'est vraiment les travaux de l'équipe allemande avec laquelle on a collaboré. Donc nous, comme je l'ai expliqué, nous avions trouvé le fait qu'il y avait des mécanismes de dégradation dans le noyau, mais nous ne connaissions pas les protéines qui étaient dégradées dans le noyau. Mm-hmm. Et via l'équipe studieuse, donc, nous avons été en contact avec cette équipe allemande qui, elle, avait trouvé des protéines qui étaient dégradées dans le noyau. Et donc, comment est-ce qu'elle avait trouvé ça? C'est grâce à une méthode tout à fait nouvelle. En fait, eux, ils marquent les protéines, toutes les protéines de la cellule par des molécules fluorescentes. Et ils marquent toutes les protéines de la cellule par deux molécules fluorescentes, une molécule fluorescente verte et une molécule fluorescente rouge. Et il se trouve que ces molécules fluorescentes ont des propriétés qui sont légèrement différentes. La protéine fluorescente verte va devenir fluorescente rapidement, mm-hmm. alors que la protéine fluorescente rouge n'est pas fluorescente tout de suite, mais avec un retard dans le temps. Et donc une protéine qui est stable, qui a une longue durée de vie, va avoir le temps d'acquérir la fluorescence verte, puis la fluorescence rouge. Et donc elle va être à la fois verte et rouge. Par contre, une protéine qui va être mal localisée, par exemple dans le noyau dans notre cas, elle va devenir verte parce que la fluorescence verte se développe rapidement. Par contre, elle va être dégradée avant que la fluorescence rouge apparaisse. Et donc, en observant la fluorescence de chaque protéine, on peut savoir si elle a une longue durée de vie, et donc elle va être verte et rouge à la fois, ou si elle a une durée de vie courte, dans ce cas-là, elle n'est que verte. Et donc, eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait effectivement un certain nombre de protéines qui avaient une durée de vie courte, et dont cette durée de vie courte dépendait des facteurs qui étaient localisés dans le noyau, et pour lesquels on était en contact avec l'équipe suédoise. Voilà.
D'accord. Vous dites que c'est une méthode qui est nouvelle parce que récente ou parce que peu utilisée?
Non, c'est une nouvelle méthode. Donc, c'est une méthode qui a été développée par cette équipe allemande. Ils l'ont développée, je crois, il y a 2 ou 3 ans.
D'accord.
Et là, la nouveauté, c'est que eux, avant, jusqu'à présent, ils l'avaient appliqué uniquement pour l'étude de quelques protéines. Et là, maintenant, ils l'ont utilisé de manière systématique pour étudier quasiment toutes les protéines des cellules qu'ils ont étudiées. Et donc, c'est ça qui leur a permis de voir qu'il y avait un certain nombre de protéines dont la dégradation, dont la stabilité dépendait de ces facteurs localisés dans le noyau.
De retour dans le Labomatique après avoir écouté le titre « Mind Camera » du groupe lillois Selenian. Après nous avoir présenté les bases de ses travaux de recherche et l'usage d'une méthodologie innovante en biologie cellulaire, Gwenaël Rabu revient avec nous sur les résultats de sa recherche, l'organisme modèle utilisé pour la mener à bien et les pistes de recherche qu'il envisage pour l'avenir.
Vous précisez aussi dans cette découverte que vous l'avez effectuée en travaillant sur des facteurs impliqués dans le contrôle de qualité des protéines. Est-ce que vous pourriez repréciser peut-être pour nous ce mécanisme ou ce processus de contrôle de qualité des protéines ?
Oui, bon, mais le contrôle de qualité, c'est tout ce qu'on a dit. Hein, c'est le fait que les cellules vérifient que leurs protéines fonctionnent bien.
C'est donc le processus en trois étapes que vous nous
voilà,
avez
voilà, d'accord. Voilà, exactement. Et donc, pour vérifier qu'elles fonctionnent bien, qu'elles sont bien synthétisées, qu'elles ont un bon repliement dans l'espace, s'il y a un problème de qualité de cette protéine, qu'elle ne fonctionne pas bien, elles vont être dégradées. Donc, elles vont être reconnues, elles vont être ensuite marquées et elles vont être dégradées.
Voilà. D'accord, donc c'est l'ensemble de ce processus qu'on nomme contrôle de qualité.
Exactement.
Alors, on peut peut-être aussi préciser aux auditeurs que vous n'avez pas travaillé à partir de n'importe quel matériau, vous avez travaillé à partir de la levure de boulanger. Alors, pourquoi cet organisme en particulier ?
Alors, c'est un organisme modèle qui est très utilisé dans les recherches en biologie moléculaire. C'est un organisme modèle qui est simple, qui est composé d'une seule cellule. Donc, on n'a pas tous les... Il contient tous les mécanismes de base pour le fonctionnement d'une cellule, mais ensuite, il n'a pas des mécanismes supplémentaires qui sont liés à tout ce qui est le développement d'un organisme complexe. Donc, quand on regarde les mécanismes qui ont lieu dans la cellule, on a tout ce qu'il faut, mais on a un organisme qui est plus simple, en fait, qu'un organisme qui est plus complexe. Et ensuite, on a des méthodes génétiques et biochimiques qui nous permettent vraiment d'étudier tous les mécanismes moléculaires avec beaucoup d'efficacité.
Ouais. C'est aussi ce type de recherche qui permet aussi de poser des questions avec le rapprochement qui pourrait peut-être être envisagé avec l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui on envisage des rapprochements avec ce type de recherche chez l'homme pour découvrir de nouvelles choses ?
Alors pour l'instant, on ne connaît pas de mécanismes similaires à ceux que nous avons mis en évidence chez la levure chez l'homme. Cependant, en fait, c'est très fréquent qu'on se rende compte que les mécanismes qu'on trouve chez la levure existent ensuite chez l'homme. Mmh. Souvent, on les trouve d'abord chez la levure et ensuite on trouve qu'il y a des mécanismes équivalents chez l'homme. Donc là, ils ne sont pas évidents à trouver. Il n'y a pas de molécules de protéines, de mécanismes directs qu'on peut directement appliquer. Mais sans doute, nous, on pense qu'il y a certainement des mécanismes similaires chez l'homme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une particularité. Je ne sais pas si j'ai essayé de rentrer dans des détails.
Allez-y.
Il y a une particularité de la levure, c'est-à-dire que, donc, comme la levure, comme toutes les cellules, se multiplie. Donc, c'est-à-dire qu'elle va une cellule mère qui va se diviser et qui va faire deux cellules filles. Et chez la levure, au cours de cette division, le noyau reste intact. C'est-à-dire que le noyau de cellules va être partagé en deux, mais sans être désassemblé au cours de cette division, de ce partage de la cellule mère en deux cellules filles. Dans les cellules humaines, la plupart des cellules humaines, quand elles se divisent, le noyau est désassemblé. C'est-à-dire que la cellule humaine, avant de faire deux cellules filles, elle va désassembler son noyau, séparer son matériel magnétique en deux lots, et ensuite elle va réassembler deux noyaux dans les deux cellules filles. Et donc, en fait, le fait que le noyau se désassemble donne l'opportunité à la cellule de corriger éventuellement des erreurs de localisation.
D'accord.
Qui peuvent avoir eu lieu avant, dans l'étape avant la division cellulaire. La levure n'a pas cette opportunité-là parce que le noyau ne se désassemble pas.
Très bien, oui.
Donc c'est pour ça qu'elle a dû mettre en place ces mécanismes de correction parce qu'elle ne peut pas corriger au cours de la division cellulaire. Donc une cellule humaine, elle, a priori, elle a l'opportunité de corriger ses erreurs lorsque la cellule se divise. Mais dans notre corps, on a plein de cellules qui ne se divisent pas aussi. On appelle les cellules post-mitotiques. C'est le cas en particulier de tous nos neurones. Une fois qu'on a un neurone qui a été formé, il ne se divise plus. Et donc nous, on pense que des mécanismes similaires à ceux qu'on a vus chez la levure pourraient avoir lieu dans ces cellules qui ne se divisent plus, comme les neurones. Mais là, pour l'instant, on n'a pas... c'est des choses qu'on ne sait pas. Voilà.
D'accord, ouais, donc là, vous arrivez à une limite un peu de la connaissance.
Exactement.
Alors, vous concluez cette recherche en précisant que vous avez donc identifié un certain nombre de protéines. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir là-dessus ? Il me semble qu'il y en a une vingtaine, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, donc à l'heure actuelle, nous avons identifié une vingtaine de protéines de la levure qui sont dégradées par ces mécanismes de contrôle de qualité de la localisation. Il y en a sans doute beaucoup plus. Nous, c'est ce que nous avons pu voir à l'heure actuelle. Il y en a sans doute beaucoup plus, et on continue à chercher de voir s'il y en a plus chez la levure. Et forcément, le fait que si on en trouve plus chez la levure, ça pourra nous donner des idées de, effectivement, si ces mécanismes peuvent être conservés chez l'homme ou pas.
Et vous précisiez aussi dans le papier, c'est une proposition explicative que vous donnez aujourd'hui, mais en l'état actuel des connaissances, c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, la vérité vraie, quoi.
Le fait que on dise que les mécanismes qu'on a découverts nous permettent aux cellules de corriger la mauvaise localisation des cellules dans le noyau, c'est dû au fait que les protéines qu'on a découvertes, les 20 protéines qu'on a découvertes qui sont dégradées dans le noyau, ne sont en fait normalement pas localisées dans le noyau. Peut-être qu'au fil de nos recherches, on verra que les mécanismes qu'on a mis en évidence permettent aussi de dégrader des cellules qui doivent être localisées dans le noyau, mais qui, pour une raison ou pour une autre, doivent être dégradées. Et donc, peut-être que nos découvertes, quand on fera d'autres recherches, on se rendra compte que les mécanismes qu'on a mis en évidence ont d'autres fonctions et d'autres buts dans la cellule. Voilà.
On a commencé cette interview en mentionnant certaines pathologies. Donc, on a parlé rapidement de Parkinson, d'Alzheimer et peut-être du cancer aussi pour illustrer un peu les mécanismes qui vous intéressent en tant que chercheur. Est-ce qu'on peut imaginer donc des prolongements à ce type de recherche autour de ces pathologies à l'avenir ? Ou est-ce que c'est encore trop prématuré ?
Alors oui, alors pas forcément exactement ce que nous faisons juste maintenant, mais dans le domaine de la dégradation des protéines, il y a énormément de travaux qui ont pour but de trouver des molécules qui pourraient être utilisées pour soigner des maladies humaines, en particulier les cancers. Donc oui, tout à fait, il y a beaucoup, beaucoup de laboratoires qui travaillent là-dessus à l'heure actuelle.
Est-ce que c'est pas aussi l'un des objets de recherche du laboratoire allemand avec lequel vous avez travaillé ? Il me semble que le mot cancer figure dans le...
que les recherches... Eux, ils travaillent dans un institut, effectivement, qui est un institut de recherche sur le cancer. C'est pas un objectif direct de leurs travaux à l'heure actuelle. Mais, donc leur équipe, comme la nôtre, est une équipe ce qu'on appelle de recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on essaye de décrire les mécanismes moléculaires qui sont à l'œuvre dans les cellules. On n'a pas l'expertise et les moyens, nous, de développer des molécules qui vont être utilisées en thérapeutique. Par contre, les résultats de nos recherches peuvent être utilisés par d'autres équipes qui, ensuite, elles, peuvent vouloir développer des molécules qui pourraient avoir être utilisées en thérapeutique. Voilà.
Pour finir cette interview, la coutume veut que nous fassions une petite ouverture. En l'état actuel de ces connaissances, qu'est-ce que vous envisagez comme piste de recherche pour l'avenir et dans quelle direction vous voyez poursuivre ce type de recherche ?
Donc nous continuons à étudier les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans cette dégradation des protéines qui sont mal localisées dans le noyau. Donc on essaie de voir effectivement s'il y a plus de protéines que celles qu'on a déjà découvertes. On essaie de voir si toutes les protéines sont effectivement dégradées aussi, parce que l'ubiquitination dont on a parlé, qui sert à la dégradation aussi, peut avoir d'autres fonctions. Donc on essaie de voir si les protéines qui sont être marquées par les facteurs qu'on a vus peuvent avoir... L'ubiquitination peut servir à d'autres choses. Et on étudie également d'autres mécanismes de dégradation qui ne sont pas uniquement liés à ces facteurs de contrôle de qualité.
C'était le Labomatique sur Radio Campus Rennes, votre émission dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Pour les curieux, vous trouverez des liens pour approfondir la thématique de ce jour sur le site. Des illustrations vous permettront de mieux comprendre les mécanismes dont nous avons parlé aujourd'hui, de même que la méthodologie empruntée à l'université allemande d'Heidelberg.